deux parties encore dans cette instruction. La première partie, ça va être l'oraison. Et la deuxième partie, ça va être les rapports entre la prière privée et la prière liturgique. Donc, dans cette retraite, on a voulu mettre l'accent aussi, non seulement sur les vertus, mais aussi sur la liturgie. Parce que je pense que certains fidèles méconnaissent en partie au moins la beauté de la liturgie et la liturgie comme moyen de sanctification. Donc c'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur cet aspect-là au cours de cette retraite. Donc ici, dans l'introduction, je vais reprendre des choses qu'on a dites tout au début de la retraite, mais le fait de répéter les choses, ça doit aider à faire en sorte que ça pénètre davantage. Et puis certaines, le premier soir, elles étaient encore dans le monde, en esprit, donc je profite maintenant qu'elles soient bien dans la retraite pour leur en parler. Et pour vous décrire l'oraison, je vais commencer simplement par prendre deux définitions. Vous donner la définition qu'en donne Saint François de Sales, et puis ensuite on verra celle que donne Sainte Thérèse d'Avila. Ce sont deux définitions qui se rapprochent et qui aussi en certains points, il y a des petites différences, c'est pour ça que je vous donne les deux. Voici ce que dit Saint François de Sales pour décrire l'oraison. Donc l'oraison, c'est la prière mentale. Vous savez qu'il y a deux façons de prier. Il y a la prière vocale, quand on prie à voix haute, et la prière mentale, quand on prie en esprit. Normalement, toute prière vocale vraie est aussi une prière mentale, parce qu'il faut que notre esprit soit en accord avec la parole. Mais comme malheureusement, il se peut parfois que dans les prières vocales, notre esprit soit ailleurs, on s'exerce à faire une prière silencieuse pour que notre esprit se tourne vers Dieu. Et là, on sait bien qu'il est tourné vers Dieu ou qu'il ne l'est pas, on se rend assez vite compte. Donc, définition de l'oraison selon saint François de Sales, il dit que c'est une conversation par laquelle l'âme s'entretient amoureusement. Donc c'est pas une conversation avec soi-même, vous voyez, c'est une conversation avec Dieu. De sa très aimable bonté, mais de lui, pour s'unir et se joindre à elle. Donc dans cette définition, on constate tout d'abord, si on parle de conversation, c'est qu'il y a un échange. Donc on parle et on écoute. Donc il y a deux aspects dans la prière de l'oraison. On parle à Dieu, mais on écoute le bon Dieu aussi. Ensuite, amoureusement, donc c'est la place de l'amour dans le rapport avec Dieu. Donc dans l'oraison, on voit essentiellement en Dieu un Père qui nous aime. La prière par excellence que notre Seigneur nous a apprise, c'est notre Père, réaliser que Dieu est notre Père. Et une sainte, je ne me rappelle plus où est-ce que j'avais vu ça, qui rentrait en extase justement chaque fois qu'elle commençait à dire notre Père. Elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle disait, oh, Dieu est notre Père. On n'est pas là. Mais c'est vrai que si on réalisait vraiment ce que ça veut dire, c'est magnifique. Qu'un Dieu si grand, si parfait, si soit notre Père. Et de quoi s'entretient-on ? Donc de sa bonté. Donc réaliser que Dieu est infiniment aimable, digne d'être aimé, et réaliser que Dieu nous aime. Et le but de cette prière, c'est de nous unir et de nous joindre à Dieu. Justement, l'amour permet d'unir l'être aimant à l'être aimé. Donc c'est très important de se rendre compte dès cette définition que l'essentiel de l'oraison consiste dans, finalement dans l'amour. Il y a des considérations de foi, donc une vue de foi sur Dieu, mais l'essentiel c'est l'amour. L'essentiel sont les affections qui partent de notre cœur et qui vont jusqu'à Dieu. Le matin, si vous voulez, on vous fait des oraisons à voix haute. Elles sont un peu fausses parce que c'est le prêtre qui fait oraison à voix haute, c'est pas vous. Vous vous unissez bien sûr à la prière du prêtre, j'espère. Mais c'est pas vous qui faites oraison. Donc, vous le faites aussi avec lui, mais on le fait à voix haute pour vous montrer un peu comment se fait l'oraison. Mais ensuite, il faut que vous-même vous fassiez la même chose en fait. Mais avec vos mots à vous et que ça parte vraiment de votre cœur. Et c'est ça l'oraison. L'oraison, c'est on contemple Dieu, on le regarde, on commence par le regarder, et le fait de le voir, ça produit en nous des affections. Et ces affections, eh bien, si elles viennent vraiment du fond du cœur, elles sont vraies, et donc elles réalisent cette union avec Dieu. Et Sainte Thérèse d'Avila dit. Donc, un peu la même chose, d'une façon un peu différente aussi. L'oraison, dit-elle, est un entretien d'amitié. Où l'âme parle cœur à cœur. Avec celui dont elle se sait aimer. Donc on retrouve les mêmes éléments qu'en saint François de Sales, mais ici la spécificité c'est d'abord ce cœur à cœur qui décrit bien ce qu'est l'oraison. Donc on voit à nouveau la place de l'amour dans l'oraison et de cette liberté, de cette spontanéité, je dirais, dans nos rapports avec Dieu. Donc réaliser ici l'intimité que Dieu veut avoir avec nous. Notre Seigneur disait à la fin de sa vie à ses apôtres, et il veut nous le dire aussi à nous aujourd'hui, « Désormais, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Alors, avec celui dont elle se sait aimer, celui, c'est notre Seigneur. Et ici, donc, il faut réaliser que notre Seigneur est une personne vivante qui est là près de nous. En particulier, c'est bien sûr, c'est plus facile de prier devant le Saint-Sacrement parce que notre Seigneur est là d'une façon il est plus proche, en quelque sorte. Mais même sinon, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous dit notre Seigneur. Donc, d'où l'intérêt d'ailleurs de la prière en famille. Le Seigneur bénit la prière où l'on est à plusieurs, mais même seul, en pensant en particulier à la présence trinitaire au fond de notre âme, nous sommes avec Dieu. Et donc on s'entretient avec Dieu qui est là près de nous, une personne qui est vivante. Qui nous voit mieux que nous nous voyons, qui nous connaît mieux que nous nous connaissons, qui nous aime mieux que quiconque. Donc tous les justes qui ont vécu au temps de notre Seigneur, les justes, ils étaient attirés par lui. Sainte Marie-Madeleine, pourquoi elle est sortie du péché? Parce qu'elle a aimé notre Seigneur. Elle a aimé comme personne vivante. Pourquoi les apôtres ont suivi notre Seigneur? Parce qu'ils ont été enthousiasmés par lui, parce qu'ils ont réalisé qu'il était Dieu. Eh bien, ce qui était vrai il y a 2000 ans est vrai aujourd'hui encore. Notre Seigneur, aujourd'hui, reste une personne vivante. Et donc la religion, c'est essentiellement l'adhésion de notre cœur à une personne vivante. C'est pas l'adhésion à un code de loi, l'adhésion à une idéologie, à une doctrine, c'est l'amour d'une personne vivante. Qui nous aime, dont elle se sait aimer. Donc l'amour appelle l'amour. Plus on réalisera l'amour personnel que Dieu nous porte, et plus bien sûr nous l'aimerons. Alors comment savoir si Dieu m'aime vraiment? Eh bien regardons ce qu'il a fait pour nous. il s'est incarné pour nous, il s'est incarné pour moi. Et c'est ça justement le rapport de l'oraison, c'est un rapport personnel. C'est pas il s'est incarné pour l'humanité, il s'est incarné pour moi. Il est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, pour me conduire au ciel. Il est là dans la Sainte Eucharistie pour moi, pour que je l'adore. Donc il faut réaliser que les mystères de notre Seigneur sont nos mystères. Ils sont nos mystères parce que c'est pour nous que notre Seigneur a vécu ces mystères. C'est bien ce qu'on dit dans le credo. Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Et saint Paul, qui a été terrassé sur le chemin de Damas, qui était Saul en ce moment-là, eh bien, il a pu dire « Le Christ Jésus m'a aimé et s'est livré pour moi. » Donc là, on voit bien ce rapport d'intimité personnelle entre saint Paul et notre Seigneur. Il n'avait pas connu notre Seigneur personnellement, il l'a connu qu'au moment où il a été terrassé sur le chemin de Damas, mais en ce moment-là, il y a eu cette rencontre personnelle. Et c'était le moteur de son action, cette conviction profonde que Dieu l'aimait. Et voyez que sainte Thérèse ne dit pas dont elle se sent aimée, mais dont elle se sait aimée. Donc il ne s'agit pas de sentir, il s'agit de croire. Et donc, quel que soit mon état de santé, quel que soit mon état psychologique, notre Seigneur reste Dieu. Notre Seigneur est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, il m'a préparé une place au ciel. Et que je sois en bonne santé ou malade, ça ne change rien. Cette réalité reste authentique. Donc je dois accomplir mes devoirs envers lui. Alors après avoir vu ce qu'est l'oraison, voyons les dispositions intérieures alors pour rentrer en oraison. Et là, on va retrouver les dispositions que je vous donnais au début de la retraite, puisque finalement, la retraite, c'est cela. C'est une vie d'oraison, une vie près de notre Seigneur pendant quelques jours. Donc, première disposition, l'humilité. Donc, l'humilité, finalement, toujours, c'est-à-dire qu'il faut réaliser que Dieu est infiniment grand. Il est à la fois très proche de nous et en même temps, il est infiniment grand. Donc, quand on va voir un personnage important, on ne rentre pas sans frapper comme ça, « Bonjour, c'est moi !» Donc, en général, bon, il y a quand même un minimum de tenue qu'il faut essayer d'avoir. On réfléchit avant ce qu'on va lui dire. Et bien là, quand on va rencontrer notre Seigneur, c'est un petit peu pareil, vous voyez. Donc, il y a une disposition d'âme. On réalise que notre Seigneur est Dieu, donc c'est pas rien de rencontrer Dieu. Et donc la première disposition, c'est de se mettre tout petit. Et plus on se mettra petit devant Dieu, plus le bon Dieu donnera sa grâce.